Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Qui est l'ennemi? Cette question était au centre des 6e Assises nationales de la recherche stratégique il y a quelques jours à Paris, à l'initiative du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Un sujet éminemment d'actualité, la guerre en Syrie, en Irak, le conflit en République de Centrafrique, la prise d'otage à Bamako, les attentats en Tunisie, l'appareil civil russe abattu au-dessus du Sinaï, les attentats en Turquie, à Paris, en janvier contre le journal satirique Charlie Hebdo, et plus récemment le 13 novembre. Qui est l'ennemi? L'interrogation reflète bien la perplexité qui est la nôtre aujourd'hui face à des points de tension nouveaux, plus nombreux, dont la lecture gagne en complexité. Alors que la notion d'ennemi n'allait plus de soi ces dernières années, la voilà qui ressurgit, non sans questionnement sur notre naïveté peut-être, notre manque de lucidité sans doute, ou encore notre volonté de ne pas voir l'ennemi ou de l'occulter. Nos invités, Ninon Granger, philosophe, enseignante de philosophie politique à l'Université Paris 8, spécialiste de la guerre et de ses différentes formes. Son dernier ouvrage, Oublier la guerre civile, et en préparation un livre sur l'état d'exception. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, expert en stratégie militaire, auteur de nombreux ouvrages dont La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Et Éric Danon, ancien ambassadeur, directeur général du CSFRS, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité nous fait entrer dans le vif du sujet avec les attentats du 13 novembre, la revendication des actions par Daesh suivie de la désignation de l'ennemi par le président français qui annonce son intention d'entrer en guerre contre l'organisation. Le lexical guerrier était-il approprié? À quel type d'ennemi avons-nous affaire? Est-ce qu'on a raison de parler de guerre? Et au-delà de cela, la France est-elle vraiment en guerre? Éric Danon.
Nous manquons sans doute du vocabulaire adapté pour rendre compte de la situation. Et donc le mot « guerre » est un mot qui permet de mobiliser une population, d'indiquer la mise en route de forces armées et de désigner clairement un certain nombre de cibles. Mais il est vrai que l'adversaire, en l'occurrence cette organisation de l'État islamique, étant un objet un peu nouveau, le type de guerre que l'on mène à ce moment-là est elle aussi d'un genre assez nouveau. Donc on peut dire que nous utilisons le mot « guerre » faute de mieux, et qu'il faudra sans doute à l'avenir avoir un vocabulaire plus adapté à ce type de situation nouvelle.
Alors, Ninon Granger.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement des mots du pouvoir, et que ces mots du pouvoir, ils se prêtent facilement à une instrumentalisation politique et à différentes métamorphoses, sans parler de la réalité elle-même, qui ne signifie pas forcément que nous sommes dans un nouveau type de guerre a priori. Ce qui est intéressant, c'est que le répertoire des moyens de préservation d'une entité politique, il est en fait très restreint. Et le discours de la défense ou de la défense sociale a toujours utilisé de manière récurrente le paradigme de la guerre et la figure de l'ennemi. Ce qui ne signifie pas que la réalité sociale et politique nous dise que nous sommes en état de guerre.
Pierre Conessa.
Je crois que votre question est effectivement une question centrale parce que une des manières de justifier une opération de violence, c'est effectivement la manière de la qualifier. Rappelez-vous, l'Algérie, c'était les événements d'Algérie, c'était de la pacification. C'est du maintien de l'ordre. Donc, si vous voulez, on a toute une gradation de la violence dans laquelle chacun des conflits va trouver sa propre phraséologie. Moi, ce qui m'a effectivement beaucoup intéressé dans les événements qu'on a vécu récemment, c'est que tous les hommes politiques se sont précipités sur le thème « la guerre », mais on nous a déclaré la guerre, qui est évidemment le bon moyen déclencheur pour mobiliser l'opinion. Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est nous qui avons déclenché la guerre et donc que c'est une action de conflit qu'on a subi, mais pour des décisions qu'on a prises sans y réfléchir. Dans la thématique de la mobilisation, vous avez effectivement toujours cette idée qu'on va faire la guerre au terrorisme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait la guerre à des concepts. D'habitude, on fait la guerre à des ennemis. Mais avec George Bush, on a inventé cette guerre contre la prolifération et le terrorisme sans dire qu'est-ce que c'était. On avait ensuite beaucoup de mal à remplir les cases.
Au lendemain de 2001. Alors avec cette histoire d'attentat, la revendication par Daesh qui devient l'ennemi numéro un, presque public, parce que quand on voit le nombre de pays qui sont impliqués dans la guerre en Syrie et en Irak, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas face à une guerre mondiale, Éric Danon.
Non, nous ne sommes pas en face d'une guerre mondiale qui supposerait un affrontement de puissances entre elles. Alors que là, même s'il y a des intérêts radicalement divergents, tout porte sur pratiquement aujourd'hui l'ennemi principal qui est l'organisation de l'État islamique. Mais vous avez fait allusion aux attentats terroristes en France liés à la situation de l'organisation de l'État islamique en termes de revendications. Et c'est là qu'on voit la limite de la notion de guerre. Car si nous mobilisons l'armée et nous faisons la guerre là-bas, nous ne la faisons pas ici contre les éléments terroristes. Et en fait, vous avez un système à deux étages, l'organisation là-bas qui mobilise les moyens de guerre, et ici, un système de nature terroriste qui mobilise des opérations de police et de justice interne. On n'imagine pas que les terroristes ici soient qualifiés de combattants. Enfin, on n'imagine pas que les gens qui ont été pris à Saint-Denis relèvent des conventions de Genève et que un organisme ONG quelconque, je sais pas, comme le Croissant-Rouge, irait les visiter à la prison de la Santé pour voir s'ils sont bien traités en prison. Donc, on voit qu'il y a un décalage complet entre la manière dont on perçoit les opérations là-bas et les opérations ici. Mais l'ensemble permet de mobiliser l'ensemble du pays dans une espèce de même élan contre cet ennemi, entre guillemets, mal défini ou qui est compliqué à définir. Juste un mot pour terminer. Heureusement que nous ne sommes pas tombés dans l'ornière de la guerre contre le terrorisme dans laquelle avait essayé de nous emmener George Bush. Et là, l'ennemi a été désigné. C'est une guerre contre une armée terroriste djihadiste, enfin islamiste en l'occurrence. Et il est à peu près bien identifié en tant que tel.
Nino Granger.
Vous parlez de décalage, je me demande même si on ne peut pas parler simplement de faux-semblants. C'est-à-dire que l'état de guerre en soi, normalement, c'est entre entités politiques constituées. Et on voit bien la difficulté que cela pose à propos de Daesh, alors qui pourrait être une entité politique constituée, voire un état, tel qu'il se désigne. À partir du moment où Daesh, justement, déclare la guerre, mais par le biais du simple moyen terroriste, en tout cas en ce qui concerne la France, il y a quelque chose qui s'engage et dans lequel la France s'engage complètement en déclarant la guerre, enfin, déclarant entre guillemets, pas juridiquement, en déclarant la guerre à son tour. C'est-à-dire que c'est une réussite de cet acte terroriste, qui en soi n'est pas un acte de guerre, que d'embarquer la France dans son vocabulaire belliqueux, guerrier, qui porte le politique à parler de guerre, et évidemment qui est très soutenu par l'utilisation massive de l'état d'urgence, qui introduit une confusion entre la guerre extérieure et la guerre à l'intérieur.
Alors c'est cela, et c'est justement le point sur lequel je voulais venir. Éric Danon parlait de deux étages. Ce lien entre guerre intérieure, guerre extérieure, finalement comment nommer ceux qui ont perpétré ces attentats? Éric Danon disait qu'il n'était pas question d'y voir des combattants de l'État islamique. Et c'est toute la notion de frontière assez floue entre criminalité et guerre et actes terroristes. Pierre Conessa, je me tourne vers vous. Ce ne sont pas des combattants, mais des criminels. Enfin, voilà, on est sur des concepts qui viennent...
Mais c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Rappelez-vous le début de la guerre d'Algérie qui commence exactement avec le même processus. Assassinat des époux Monroe, deux instituteurs qui partaient à prendre leur poste dans les ORS, et cet assassinat par les Félagas qui ont arrêté le bus et qui les exécutent, va immédiatement soulever une vague politique. Comment ça ne se passera pas comme ça? D'ailleurs, on va envoyer l'armée, et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Bon. Donc, dès le début, dans ces guerres de décolonisation, s'est posé la question du statut de ces gens, qui étaient qualifiés de terroristes d'ailleurs aussi. À l'époque, la stratégie du FLN se limitait au bled. Et puis, les vagues d'attentats terroristes dans la ville commencent le jour où, justement, l'État français, refusant le statut de combattant à ces gens-là, décide de condamner à mort deux félagas arrêtés et de le décapiter. Bon. Et donc, on a une espèce de montée en violence qui est classique dans une guerre asymétrique. Et donc, le qualificatif juridique pour savoir si c'est une guerre ou si c'est pas une guerre, moi, évidemment, m'intéresse moins que la réalité des opérations parce que, de fait, on est dans une situation de conflit. Rappelez-vous qu'en guerre d'Algérie, on arrive au service militaire à 24 mois, quand même. Si ça, c'était pas une guerre, c'était une espèce de cache-sec formidable que de l'appeler événement. Et on est dans ces situations de plus en plus parce qu'encore une fois, on ne veut pas reconnaître que politiquement, il puisse apparaître une nouvelle entité, qu'elle soit territorialisée ou pas. Et donc, on va inventer des concepts, comme l'ont fait les Américains, avec les combattants étrangers, pour ne pas parler des gens de Guantanamo, avec des droits dérogatoires, comme la prison de Guantanamo dans laquelle on est. Le tout habillé dans une espèce de sens du bon droit qui obture complètement tous les canaux de la réflexion. À partir du moment où on a raison et que les autres n'ont tort, pourquoi donc réfléchir à nos propres responsabilités et l'adaptation du système?
Mais non rangé.
Oui, c'est-à-dire que les mots, alors même qu'ils ne correspondent pas forcément à des notions essentielles, créent à leur tour une réalité. Et dans le sens qu'on pourrait dire que nous ne sommes pas en état de guerre avec l'État islamique, on peut très bien créer de fait un état de guerre dans une sorte de jeu de dupes qui va déboucher sur quelque chose comme une guerre éventuellement.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors les mots qui créent une réalité, Éric Danon, il y a un aspect politique très fort derrière tout cela et le cheminement qui a été le nôtre depuis ces dernières semaines.
Oui, parce que les termes objectifs de cette guerre sont très compliqués. Vous savez, vous avez quatre types de guerres. La première, c'est celle où vous voulez conquérir un pays. On n'est évidemment pas dans ce cas-là. La deuxième, c'est celle où vous voulez simplement imposer votre administration sur ce pays. On est dans le système romain ou parfois sur la Pax Americana. La troisième, c'est celui où vous voulez intervenir, mais pour amener à une situation nouvelle, ce qui n'est pas non plus notre cas. Et puis vous avez le cas où vous intervenez pour essayer de revenir à l'ordre ancien. Et par exemple, notre intervention au Mali, eh bien, nous sommes allés taper sur des rebelles, et l'idée, c'était de revenir à la situation ancienne. Le problème, là, c'est que nous y allons avec l'idée que nous allons détruire Daesh, mais est-ce que nous voulons la situation ancienne ? Oui, d'un point de vue territorial, c'est-à-dire que nous souhaitons, au fond, que la Syrie et l'Irak retrouvent leurs frontières et leurs territoires, mais non en termes de gouvernement, car nous n'aimons ni le gouvernement syrien, ni le gouvernement irakien. Et donc, personne ne voit, en réalité, la situation politique qui va se passer après. D'où, évidemment, une espèce de crainte qui consiste à y aller, mais sans savoir vers quoi nous allons comme situation politique finale. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à mener en termes de combat. Un dernier mot par rapport à ce qu'a dit Nilon Granger, qui était très juste. Le fait de combat, de déclarer la guerre à une entité, quelque part, lui donne un statut. Et ce serait faire beaucoup d'honneur à l'organisation de l'État islamique que de la considérer comme un État. Ça n'en est pas un, c'est ce qu'on appelle un proto-État, c'est-à-dire qu'il a quelques caractéristiques d'un État, mais pas toutes. Mais normalement, dans une guerre, vous faites, au bout du compte, la paix. Et la paix, ça veut dire que vous allez avoir un traité de paix, ou ce qui en tient lieu, et qui permet à l'autre d'être pérennisé. Or là, justement, on ne veut pas pérenniser, on veut détruire. Donc c'est une guerre où la fin, c'est pas la paix, c'est la destruction de l'autre. Ce qui change complètement la manière de concevoir ce conflit.
Pierre Connaissant.
Je reviens une minute sur les termes, parce qu'effectivement, comme ce sont deux entités culturelles qui se parlent, ou qui essayent de se parler, ou essayent d'échanger en attendant les coups de fusil, mais regardez la polysémie des termes. Quand on utilise ici le terme de croisade, on lui a donné un sens positif, si vous voulez, on parle en croisade contre le cancer, etc. Chez les musulmans, c'est l'exemple même de la référence historique qui renvoie à une invasion militaire, etc., enfin armée, etc. Le djihad a exactement le même double sens selon que vous passiez d'un côté ou de l'autre. Et l'utilisation des termes, vous savez, bon, la double définition du djihad, c'est celle qui est la discipline intérieure du musulman qui veut s'améliorer, puis celle de la défense de la terre d'islam, enfin bon. Et donc, on est complètement dans deux mondes qui se parlent, mais avec des mots qui ne se comprennent pas. Parce que effectivement, quand nous, on va déclarer la guerre, tout à coup, on va entrer dans un système qui conditionne des applications juridiques, une mobilisation, un état d'urgence, etc. On va même se demander si c'est un État ou un proto-État, ce dont se fiche totalement l'État islamique. C'est-à-dire, pour eux, il y a une réalité de terrain, et cette réalité de terrain, c'est à partir de ça qu'il faut se placer. Et donc, la caractéristique de cette crise, pour rester sur la thématique de l'ennemi, c'est qu'on a quatre conflits en un, puisqu'on a les Turcs contre les Kurdes, les Sunnis contre les Chiites, l'État islamique contre Al-Qaïda, l'Assad contre tout le monde. Et donc, chacun a ses ennemis, et on veut monter une coalition où chacun n'a pas les mêmes ennemis. Donc, je vois mal la solution politique. Éric Danon dit, c'est vrai qu'on souhaiterait que ce soit les mêmes États sans les mêmes gouvernements, mais je crois qu'on n'a plus les mêmes frontières territoriales et qu'on n'a aucune idée des gouvernements
qui pourraient sortir. En tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est de voir le switch qui s'est produit entre, justement, quand on a désigné Daesh comme l'ennemi à combattre. Ce rôle a été totalement substitué. Dire de Bachar el-Assad, on ne parlait presque plus. On est passé d'un ennemi à un autre et il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Ce qui est assez paradoxal tout de même, Éric Danon.
Oh, c'est pas un paradoxe, c'est le fait que dans cette configuration, vous êtes obligé de désigner l'ennemi principal. Et c'est dans cette désignation que se joue énormément de difficultés politiques. Effectivement, vous êtes dans une situation où l'ami de votre ami peut être votre ennemi et où l'ennemi de votre ennemi n'est pas du tout votre ami, ou en tout cas c'est pas du tout sûr. Par exemple, vous êtes l'ennemi entre guillemets de Bachar el-Assad. Daesh est l'ennemi de Bachar el-Assad, c'est pas pour ça que vous êtes ami avec Daesh. Et en réalité, ça vous oblige, ce type de configuration, à avoir des relations, j'allais dire, bilatérales avec chacun des protagonistes, alors même que le jeu est compliqué parce qu'il y a tous les ingrédients de la mayonnaise qui doivent prendre ensemble. Et à cela s'ajoute une situation assez nouvelle. C'est que même entre puissances constituées, pourrait-on dire, vous avez, dans certaines configurations, ce sont vos alliés, et dans d'autres configurations, ce sont des adversaires ou en tout cas des entités problématiques. Regardez par exemple la question de la relation avec la Russie. Sur l'affaire qui nous concerne, vous devez travailler avec les Russes et donc vous alliez entre guillemets, je vais vite en termes de vocabulaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette configuration où la Russie devient votre allié pour taper sur l'État islamique, mais où en même temps vous la mettez sous sanction à cause de l'Ukraine et de la Crimée? Pour la Turquie, vous avez une alliance militaire dans l'OTAN, mais en même temps, la Turquie vous pose des problèmes, à la fois à cause des trafics de pétrole et d'une frontière poreuse en matière migratoire. Et en réalité, une situation de ce type est encore plus forte avec la Syrie, c'est-à-dire que c'est à la fois une entité dont nous voulons voir partir le président, mais qui doit nous servir plus ou moins à éradiquer l'État islamique. Bref, vous êtes dans un système complexe où les pays sont à la fois vos alliés et vos dans un cas et vos adversaires dans l'autre, ce qui rajoute à la complexité de la situation.
D'une certaine manière, il y a des cases, le politique, le militaire, l'économique. On peut être allié économiquement, ennemi militairement ou politiquement, Ninon Granger.
Oui, ce qui montre bien le flottement dans la désignation même de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à désigner d'ennemis qui soient justement utiles aux politiques et aux comportements des nations. Donc, il y a une sorte de diffusion de la notion d'ennemi, de côté un peu fluctuant, et du coup, l'ennemi se trouve partout, mais aussi bien à l'extérieur dans un système mondialisé que à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à désigner un ennemi qui soit un peu structurant.
Pierre connaît ça.
Je crois que, si vous voulez, il faut essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que nos dirigeants se légitiment eux-mêmes à intervenir dans une crise. Parce que, fondamentalement, comme vous l'avez dit, on commence par Assad, puis ensuite on découvre que c'est Daesh, et puis finalement on se demande si Al-Nusra, branche d'Al-Qaïda, va s'asseoir à la table des négociations, etc.
C'est ce qu'on disait en début d'émission, la notion de d'ennemi, justement, il faut le créer pour motiver une intervention, c'est cela qu'il
faut
entendre.
Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui nous... Par exemple, l'argumentaire, si vous voulez, sur les responsabilités historiques, pour expliquer que nous avons des responsabilités historiques dans cette région. Si c'était ça, les Espagnols devraient reprendre l'Amérique. Enfin, je veux dire, c'est complètement stupide, mais ça n'est plus discuté. Il y a une espèce de philosophie qui a été totalement intégrée par nos dirigeants, disant, pour le bien de la planète, il faut que nous fassions ceci ou cela. Bon. Et donc, on est dans la situation où, là où on aurait pu être régulateur politique, on est devenu belligérant. C'est ça qui a été le franchissement totalement inadmissible. Alors, ce franchissement, il s'est fait selon des concepts qui sont, quand ils sont présentés à froid, paraissent très bien. C'est le devoir de protéger. Le problème, c'est qu'on l'a jamais appliqué aux Palestiniens. Donc, quand vous parlez à des musulmans pour leur dire, on va protéger la population syrienne contre son dictateur, ils vous disent, oui, c'est vrai, mais pourquoi pas ailleurs? C'est le thème qu'on a utilisé en Libye, etc. Et les résultats, vous les connaissez. Donc, on est dans cette situation où, paradoxalement, on a du mal à légitimer son intervention, et tout à coup, quand on arrive enfin à identifier un ennemi, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, vous voyez qu'on avait raison depuis le début. Alors, on en arrive encore une fois à ces situations où on a une espèce d'auto-blanchiment de nos propres erreurs. Je me souviens d'une phrase de Kerry qui disait à propos de l'Ukraine, il disait à propos de la Russie, il disait, il est inadmissible qu'au XXIe siècle, un État, une puissance ne respecte pas la souveraineté territoriale de notre État. Je veux dire, venant d'un Américain qui avait ouvert le siècle avec une guerre illégale, ça veut dire que vous avez une espèce de système d'auto-blanchiment dans le truc. On ne cherche jamais à tirer la responsabilité des erreurs qu'on a fait avant, puisque nous sommes le bien.
C'est incroyable, effectivement, mais peut-être aussi dans cette difficulté également à prendre conscience des choses et à poser un regard sur ses propres agissements. On démarrera la deuxième partie de l'émission sur la période qui a suivi immédiatement la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la disparition ou non de la notion d'ennemi. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Ninon Granger, Pierre Conessa, Éric Danon dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la notion d'ennemi, concept qui était au centre des 6e assises nationales de la recherche stratégique il y a quelques jours à Paris. Nous retrouvons nos invités, Ninon Granger, philosophe, enseignante de philosophie politique à l'Université Paris 8, spécialiste de la guerre et de ses différentes formes. Pierre Conessa, expert en stratégie militaire, et Éric Danon, ancien ambassadeur et directeur général du CSFRS, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Au lendemain de la guerre froide, on avait cru à un monde de bisounours, il n'y avait plus d'ennemis, en tout cas, c'était notre vision à nous d'occidentaux, et encore, tous les occidentaux ne sont apparemment pas à mettre dans la même catégorie quand on sait que, contrairement à l'Europe, les États-Unis n'ont jamais, eux, abandonné l'idée d'ennemi. Comment analyser notre attitude à nous ? Est-ce que nous avons vraiment cru à la fin de l'ennemi ? Est-ce que nous avons sciemment occulté l'ennemi ? Ou bien est-ce que nous avons été naïfs, ou tout simplement nous ne voulions pas voir, ce qui est évidemment assez différent, Éric Danon ?
Oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Après la fin de la guerre froide et donc la disparition de l'ennemi visible qui était l'ennemi communiste, eh bien, on s'est dit l'Occident a gagné. Et c'était quoi cette idée que l'Occident allait gagner ? C'est que, au fond, la mondialisation allait se mettre en route et que c'était une occidentalisation du monde avec ses deux marqueurs principaux qui étaient la démocratie et le marché. Et à partir de ce moment-là, si la mondialisation allait à son terme, il fallait plus faire référence à un ennemi, puisque l'ennemi, c'est l'altérité, c'est celui qui s'oppose au mouvement que vous voulez donner. Donc si vous voulez que la mondialisation aille à son terme, ou si vous posez comme tel que la mondialisation va aller à son terme, alors il n'y a plus de marge, c'est le village global. Donc il ne peut plus y avoir d'ennemi. Donc nous avons troqué à ce moment-là la notion d'ennemi contre celui de nouveaux risques et de nouvelles menaces, parce qu'on savait bien qu'il y avait de la criminalité, du terrorisme, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la mondialisation a entraîné des réactions de rejet extrêmement fortes de la part soit de gens qui se sentaient exclus de ce grand mouvement, soit de gens qui s'en excluaient eux-mêmes. Et ce rejet est allé jusqu'à une révolte identitaire, communautariste, tout ce que vous voulez. La mondialisation s'est heurtée à des gens qui n'en veulent pas. Et ces gens ont revendiqué une identité forte, et à ce moment-là, dans la violence de l'affrontement, eh bien, on redécouvre de l'intérieur de la mondialisation, pourrait-on dire, des couches anciennes de l'histoire ou récupérées comme telles, ou des religions ou récupérées comme telles, qui s'opposent à cette occidentalisation du monde basée sur la démocratie et le marché.
Alors, on parlera du cas spécifique des États-Unis, mais pour commencer, Ninon Granger, est-ce que l'on peut dire que, d'une certaine manière, les démocraties ont un problème avec le concept d'ennemi ?
Assurément, les démocraties ont un problème avec le concept d'ennemi, en tout cas récemment. Je pense pas que ce soit le cas pour toute l'histoire. Par exemple, si on prend la démocratie grecque, ça ne faisait aucun problème justement d'identifier des ennemis. Au contraire, ça faisait partie et d'une manière de se définir soi-même. Et là, on peut quand même penser à Carl Schmitt, qui a beaucoup réfléchi sur la notion d'ennemi, non pas pour le substantialiser, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a une vraie ambivalence dans la désignation de l'ennemi elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait quelque chose d'essentialisé ? Ou est-ce qu'on le désigne de manière, on en fait une marque accidentelle, et dans ces cas-là, ça permet de définir le politique. Et Carl Schmitt fait bien la distinction pour le critère de l'ami et de l'ennemi entre la guerre et le politique. Et pour lui, la désignation de l'ennemi est un critère du politique, pas spécialement de la guerre. Donc, il y a quelque chose qu'il faut voir dans cette fabrication de l'ennemi ou de cette disparition de l'ennemi, mais une disparition qui est forcément en demi-teinte, parce que dans ces cas-là, on serait, alors, dans une perspective très schmittienne, dans une sorte de désertification politique dont pâtissent, je pense, les démocraties occidentales telles qu'on semble les vivre à l'heure actuelle.
Alors, disparition, il sera intéressant peut-être un peu plus tard dans l'émission de parler de la notion de déconstruction. Pierre connaît ça. En Europe, on a pensé qu'on n'avait plus d'ennemis. Ça n'a pas été le cas des Américains.
Oui, absolument. Je crois qu'effectivement, il y a deux écoles stratégiques qui se sont un peu différenciées, mais pas trop. En Europe, on a eu une certaine humilité stratégique, c'est-à-dire qu'on s'est dit on est face à une situation nouvelle, on était confronté au basculement, si vous voulez, des anciens pays satellites, au rétrécissement de la Russie, etc. Bon. Et en fait, on réfléchissait à ce que devait être un ordre nouveau, mais éclatait immédiatement la crise yougoslave, qui nous posait beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on maintient une entité territoriale yougoslave ? Est-ce qu'il faut accepter la partition, etc. Aux États-Unis, la réflexion était très en amont, c'est-à-dire qu'au moment où les néoconservateurs commencent à réfléchir au retour au pouvoir, ils élaborent des plans pour redessiner complètement le Moyen-Orient. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont dans une attitude belliciste. Le plan for a new American century est exactement un plan d'explication comment les États-Unis doivent conserver leur suprématie dans le siècle à venir. Et donc, ces différences de postulats stratégiques sont absolument essentielles à comprendre. Parce que malheureusement, c'est pas notre humilité qui va les imprégner, c'est nous qui allons nous mettre dans le sillage, à l'exception du moment où le président Chirac s'y oppose. Ce qui m'a intéressé, c'est que Carl Schmitt, lui, évidemment, pose comme postulat que la fonction première du politique est de définir l'ennemi. Mais Carl Schmitt, il a vécu une histoire assez simple. Il a été dans l'Allemagne nazie, puis ensuite, il a été dans l'Amérique McCarthyste. C'est-à-dire que pour lui, la question du processus de définition de l'ennemi ne le préoccupait pas. Ils étaient évidents. Tandis que moi, je me suis intéressé à la manière dont une démocratie va fabriquer ses ennemis. On part toujours du postulat qu'une démocratie est pacifiste, c'est faux. Mmh. Regardez le cas des Américains en Irak, les Français et les Anglais colonisant la planète, et Israël continuant à coloniser les territoires occupés. Mais parce que à chaque fois, on part du postulat qu'étant une démocratie, la guerre est un mal nécessaire. Et c'est cette définition, ce processus intellectuel qui est intéressant à construire.
Un mal nécessaire ?
C'est vécu comme tel, c'est-à-dire on dit on y va à reculons parce que nous sommes une démocratie, mais il n'empêche que les matchs précédents prouvent qu'on n'y va pas obligatoirement à reculons. Parfois en mentant complètement, comme ça a été le cas pour la guerre d'Irak.
C'est-à-dire que ça satisfait aussi les intérêts de certains. Éric Danon.
Juste pour ajouter à cela, parce que je suis tout à fait d'accord, la question de la construction européenne. L'Europe s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale, et à cause de ce traumatisme, dans une allergie à la guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas d'Europe puissance, ni d'Europe qui, en tant que telle, se porte sur des conflits. L'Europe, fondamentalement, n'en voulait plus, elle en avait trop souffert. Et donc vous avez une entité qui est un peu comme le cœur antique de la tragédie grecque, c'est derrière l'action et ça dit le droit et la morale. Mais pour y aller, il n'y a plus personne que des pays, mais pas l'Europe en tant que telle. Et c'est exactement à cause de cela que la stratégie de Daesh est très différente de celle d'Al-Qaïda, c'est que ça consiste à attaquer non pas les États-Unis parce que la réplique a été trop forte après le 11 septembre, mais le ventre mou du système qui est justement l'Europe. Les gens se demandent mais pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent autant quelque part ? Et c'est parce que justement, ils savent que c'est l'entité qu'ils vont pouvoir agresser et peut-être réveiller et provoquer, et c'est ça aujourd'hui qui intéresse Daesh.
Alors, quelques mots et un petit instant sur les notions philosophiques, et je me tourne vers vous, Ninon Granger, pour aller un petit peu plus loin. Régis Debray, qui participait à ces assises, évoquait par exemple l'idée qu'une nation sans ennemi est une nation sans histoire. Est-ce qu'il en va de l'individu comme de la nation ? On a parlé de la nécessité de l'ennemi dans la construction de l'individu, un ennemi sur qui compter permet de se rassurer. Est-ce à dire que ni la société ni l'individu ne peuvent exister sans un ennemi ? Ninon Granger.
Alors, l'analogie entre l'individu et les nations, elle est toujours très très problématique et à mon avis très souvent infondée. Si on veut faire une sorte d'analogie qui ne soit pas infondée, on peut s'en remettre aux notions de la République romaine qui distinguent hostis et amicus. Et alors ça nous fait rentrer dans quelque chose de très intéressant parce que hostis, c'est l'ennemi du peuple romain, tandis que l'inimicus, c'est le contradictoire, on va dire, de l'amicus qui, lui, désigne non pas un ami politique ou un allié, mais une relation sociale à l'intérieur de Rome. Et donc avec ce qui peut être de la concurrence, de la rivalité, de la captation de clientèle ou ce genre de choses. Mais il y a bien cette distinction entre l'extérieur et l'intérieur. Et la notion d'hostis comme ennemi va devenir ambiguë. Elle était au départ identifiée à l'étranger, donc c'était une forme de simplisme, on va dire, mais bien utile pour les politiques. Et elle va être rabattue sur l'intérieur. Et il me semble que cette indétermination entre l'extérieur et l'intérieur se retrouve, alors toute proportion gardée, dans ce que Pierre Conessa et Éric Danon ont dit, notamment des démocraties, parce que justement, là, je suis entièrement d'accord avec vous, les démocraties se disent, se proclament pacifistes alors qu'elles ne le sont absolument pas. Mais du coup, il y a une espèce de vide, et c'est pour ça que quand on parle de valeurs à défendre aujourd'hui, je me demande bien lesquelles elles sont, j'ai plutôt l'impression d'une espèce de vide, de gouffre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à défendre. Et à défendre contre qui ? Contre tout ce qui peut être identifié à du non-démocratique. Ce qui nous amène à une possibilité de la démocratie que Platon avait bien montré, c'est-à-dire de verser dans, alors lui ce qu'il appelait la tyrannie. Et moi, ce que j'appellerais plutôt une sorte de d'anti-démocratisme de la démocratie elle-même, qui est, à mon avis, visible avec l'état d'urgence, c'est-à-dire qui serait un syndrome antidémocratique de la démocratie. Et tout ça passe par cette espèce de fluctuation sur la notion d'ennemi qui se dérobe en même temps que, finalement, aujourd'hui, on ne parle que de lui.
Vous souhaitez réagir, Éric Danon ?
Oui. Le paradoxe veut que l'agression extérieure permet toujours à une communauté de se regrouper. Et après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, vous avez 4 millions de personnes dans la rue, c'est-à-dire la plus grosse manifestation depuis la libération. Il y a donc un phénomène qu'on pourrait dire paradoxal, mais qui ne l'est pas, qui explique que même au niveau d'une collectivité, on ne s'oppose qu'en s'opposant, en ce sens que rien ne fait plus prendre conscience de ce qui peut être partagé en commun qu'une agression extérieure, même si cet élément qui fait communauté est difficile à définir. Il est difficile à définir, mais chacun le ressent comme existant et à ce moment-là va manifester dans la rue. Sauf que effectivement, ces manifestations étaient polysémiques, c'est-à-dire que chacun qui y a participé y a mis quelque chose de différent de l'autre. Mais au fond, les gens étaient quand même dans la rue, c'est-à-dire c'est bien l'agression extérieure qui fait le regroupement, ou qui fait que, si la crise est estimée bien gérée par une majorité de personnes, la cote de popularité de celui qui a en charge le destin du pays augmente d'un coup singulièrement. Et ça, ce sont des phénomènes absolument constants dans l'histoire. C'est comme ça. Voilà, l'agression extérieure, ça permet de se sentir en tant que communauté.
Pierre connaît ça.
Juste un mot sur la construction européenne, parce que moi, personnellement, j'ai tendance à penser que si vous voulez, la réconciliation franco-allemande, qui est donc le processus le plus paroxystique de déconstruction de l'ennemi, est en fait le phénomène politique nouveau de la deuxième moitié du XXe siècle. On s'était fait trois guerres, on devait hériter d'ennemis qui étaient des ennemis héréditaires, hein, rappelez-vous le terme, etc., etc. Bon. Et deux hommes d'État décident qu'on arrête le match. Ce processus-là est absolument essentiel, puisque sans ça, on n'aurait pas pu construire l'Europe. Maintenant, l'Europe est une entité hétérogène, c'est-à-dire qu'on a des pays qui se qualifient de puissance, je reviendrai sur le terme, d'autres qui se veulent neutres, certains sont membres de l'OTAN, et d'autres, des pays qui ont un système de défense, comme la Suède, mais qui s'estiment ne pas appartenir à l'OTAN et donc neutres. Bon. Et c'est la conjonction de tous ces projets stratégiques totalement différents qui fait que l'Europe de la défense est inconstructible, parce que on n'a pas le même concept stratégique. Quand vous vous dites aux autres Européens, notre sécurité se joue en Syrie, vous avez un certain nombre de pays qui vous dites non. Et quand vous dites elle se joue au Mali, d'autres vous disent non, ça ne se joue pas au Mali. Et donc, il faudrait un moment s'interroger sur ce que nous utilisons comme terme, c'est-à-dire la puissance. Qu'est-ce que signifie être un état puissant? Ça veut dire j'ai le droit de vous interdire de faire ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est un processus positif? J'en suis pas tout à fait sûr. Vous savez, quand on a construit l'ONU, on a quand même construit l'ONU sur un principe de veto. C'est quand même ça, le principe d'organisation. Et les États qui ont le droit de veto, c'est-à-dire celui d'empêcher l'ONU de s'occuper d'un conflit, ont fait à peu près une cinquantaine de conflits qu'ils ont volontairement placé hors de la régulation internationale. Nous sommes mal placés pour parler du droit international quand on a ce passé-là, puisque ça veut dire le droit international, c'est nous qui le définissons. La Cour pénale internationale est un exemple extrêmement intéressant, puisqu'effectivement, c'est une initiative américaine qui va créer un processus de déconstruction de l'ennemi qui est extrêmement important. C'est-à-dire, ce n'est pas le vainqueur qui juge le vaincu, c'est la communauté internationale qui juge celui qui a abusé du droit. Le problème, c'est qu'effectivement, on s'y soumet pas.
Alors justement, je voudrais qu'on aille plus loin pour terminer cette émission sur l'importance de la résolution des problèmes avec l'ennemi, de la déconstruction que vous évoquez. Quand il n'y a pas déconstruction, il y a résurgence du problème à un autre moment de l'histoire, ailleurs en termes de territoire. Je pense à la Russie dont certains évoquent le rôle en Syrie comme une revanche sur la défaite soviétique en Afghanistan. Éric Danon.
Oh, c'est une interprétation parmi d'autres. Ce qui apparaît à peu près clairement, c'est que Vladimir Poutine a deux caractéristiques qu'il partage d'ailleurs avec Erdogan. Il est dans le regret du rayonnement passé de son pays et il a une conception ancienne de la puissance, qui est une conception basée essentiellement sur la force. À partir de là, il va essayer d'effacer ce qui est bien plus que l'affaire de l'Afghanistan, c'est la fin de la guerre froide, parce que il y a eu chez lui l'idée que l'Union soviétique avait été humiliée, et l'humiliation, c'est un des ressorts les plus forts qui soient. En réalité, dans l'histoire, la règle absolue, c'est que si vous humiliez quelqu'un, eh bien, à un moment ou à un autre, vous allez le payer, et qu'il faut essayer de bien finir les conflits. Là, sans faire d'analogie encore avec les personnes et les communautés, c'est comme dans un couple, quand le conflit est pas bien réglé et pas bien résolu, il ressort toujours d'une façon ou d'une autre un peu plus tard. Il faut bien régler les choses. Or, de la même façon que vous avez de moins en moins de déclarations de guerre et que l'ennemi porte rarement un uniforme, eh bien vous avez de moins en moins de traités de paix pour finir les conflits, et souvent quelque chose de ces conflits reste ouvert et on le paye à un moment ou à un autre.
Ninon Granger.
Oui, vous avez parlé de déconstruction de l'ennemi, et c'est vrai qu'on est vraiment en plein dans cette situation-là. Mais à mon avis, il faut aussi se poser la question de la déconstruction, qui apparemment en est afférente, de la déconstruction de la démocratie. Et si je peux me permettre de revenir à des enseignements d'une certaine tradition philosophique, les doctrines de la guerre juste, à propos de la guerre, elles nous ont montré quelque chose. D'abord, qu'on pouvait limiter la guerre, et là, je précise, l'ennemi était un adversaire qui avait des droits, mais elle nous a aussi montré, et ça c'est aussi la critique de Carl Schmitt, que l'ennemi, on pouvait le mettre hors de l'universel, hors de l'humanité, et on pouvait le criminaliser et donc avoir une porte ouverte à son extermination. Donc il me semble que ça c'est important parce que il y a en fait deux dimensions, celle d'un droit international de la limitation et puis une autre dimension qui est un politique hors juridique et qui pose la question de la déconstruction ou de la décomposition démocratique.
Pierre connaît ça.
Je crois que le cas russe est particulièrement intéressant, parce que la fin de la guerre froide a, comment dire, décongelé, si vous voulez, un certain nombre de caractéristiques du temps long. Ce retour du temps long a fait réapparaître des choses que l'analyse stratégique ne prenait pas en compte, parce qu'on raisonne à partir d'État, parce qu'on raisonne à partir de puissance, parce qu'on raisonne à partir de rivalité, etc. Et la fin de cette guerre froide, qui paradoxalement est une guerre gagnée politiquement, pas militairement, c'est-à-dire que l'outil militaire soviétique était resté intégral. Et donc, ce sentiment d'humiliation qui va se traduire en particulier par l'éclatement de l'URSS, la constitution de nouveaux États, la fin des États satellites, et puis ces morceaux, si vous voulez, qui sont aujourd'hui, qui contestent aujourd'hui la réalité russe, c'est-à-dire cette colonisation russe de la fin du 19e siècle est une colonisation de la continuité territoriale. Et donc, pour eux, aujourd'hui, le sentiment d'avoir fait éclater le pacte de Varsovie alors qu'on avait pris l'engagement de ne pas élargir l'OTAN, engagement qu'on n'a pas tenu. La volonté des Américains d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, alors que nous le refusons. Le jeu des révolutions oranges, qui a été largement instrumentalisé par l'aide américaine. Et surtout, aujourd'hui, l'idée que dans des régions comme le Caucase, des gens contestent la présence russe, font ce sentiment d'humiliation des Russes sur lequel on n'a pas assez travaillé. Et quand effectivement Poutine nous fait remarquer que la Crimée était à 90% russe et qu'il fait voter un référendum, quand on a fait le Kosovo avant, on se tait, on est un peu plus prudent, on prend pas tout de suite les sanctions. Ou alors on les prend contre les Américains quand ils envahissent l'Irak. Donc ce double standard est un double standard sur lequel on ne revient jamais en termes d'autocritique. Et donc on se construit un ennemi, puisqu'il respecte pas nos règles. Et donc, sur la déconstruction, malheureusement, ça mériterait une émission en soi. Parce que vous avez toutes les formules. Vous avez l'oubli, loi d'amnistie algérienne.
Le pardon.
Vous avez le pardon. Vous avez la justice non réparatrice. Et puis, vous avez ce formidable exemple qui mériterait à lui seul un développement. C'est cette commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Tous ces épisodes-là sont aussi des phénomènes novateurs extrêmement importants, mais ça mériterait un autre débat.
La commission de la vérité en Afrique du Sud, et pas seulement en Amérique centrale, en Amérique latine. Ninon Granger, très rapidement.
Il faudrait reprendre la question de la guerre juste là où elle s'est arrêtée et essayer de penser enfin un vrai jus post bellum, c'est-à-dire un vrai droit de l'après-guerre qui serait éventuellement un droit de la paix.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Ninon Granger, philosophe, enseignante de philosophie politique à l'Université Paris 8, spécialiste de la guerre et de ses différentes formes. Son dernier ouvrage, oublié, La guerre civile, et en préparation un livre sur l'état d'exception. Pierre Conessa, expert en stratégie militaire, auteur de nombreux ouvrages dans la fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi, paru chez Robert Laffont. Et Éric Danon, ancien ambassadeur Bauer, directeur général du CSFRS, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique qui organisait donc il y a quelques jours à Paris les 6e assises nationales de la recherche stratégique. Je signale la sortie du dernier hors-série de la revue Conflit, puissance et rapport de force au XXIe siècle. On n'est pas loin de la notion d'ennemi. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.